What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Come fattissimo.
Curieux, amateurs, amoureux du cinéma d'Ardèche et du monde entier, bonjour. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez Cinémascope, le magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va flirter avec l'actualité, mais comme toujours, non ? Le cinéma, même lorsqu'il n'aborde pas frontalement un sujet de société, ne sont-ils pas toujours l'inconscient de la société ? Alors, je vous fais part de mes questionnements comme ça, mais est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il n'est pas toujours aux prises avec le réel, qu'il s'en émancipe ou qu'il l'épouse, qu'il le repousse, le façonne, le transforme ou même le déforme? Donc comme toujours, on va parler d'actualité en compagnie aujourd'hui de Didier et de René.
Bonjour.
Bonjour tous les deux. Et de Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
En discutant des films La syndicaliste de Jean-Paul Salomé, bien sûr, mais aussi Mon crime de François Ozon, Empire of Light de Sam Mendes, Les gardiennes de la planète de Jean-Albert Lièvre et El Agua. Du coup, je ne sais plus de qui c'est, mais... Ah ben non, mais je l'ai mis à dessin, en fait je suis taquine parce que...
El Agua, c'est un premier film espagnol, Elena López Riera.
Voilà.
Sans l'accent.
Elena López Riera. Et oui, parce que alors c'était un petit, je me suis piégée moi-même parce que j'avais fait la liste des films avec le nom des réalisateurs et il y a quelque chose qui m'a marqué quand même, c'est que ce sont des films qui représentent souvent une ou des femmes. Hein. Attention, les gardiennes de la planète, c'est pas des femmes mais des baleines. Ça, c'est les mystères insondables de la langue française et du genre des mots. Mais ce sont des films vus et réalisés par des hommes. À part le dernier. Exactement, voilà. À part le dernier. Et c'est pour ça que je n'avais pas de nom. Mais sinon, allez, on va dire 1 sur 5 réalisés par une femme. Alors, c'est un simple constat, hein, mais je me disais quand même... et c'est pas forcément à mettre sur le compte du hasard du calendrier, puisque je pense que les semaines précédentes, on aurait eu à peu près sensiblement la même chose.
Si je peux répondre à ça, quelque part, c'est logique, puisqu'il y a encore 20 ans, les femmes étaient pas absentes, mais quasiment absentes du cinéma, en particulier chez les réalisatrices. Hein, on avait Agnès Varda et quelques-unes, et que l'arrivée des femmes vers l'égalité au cinéma, c'est très récent. Donc forcément, il y a une inertie qui fait que... Voilà. Mais le côté positif de la chose, et optimiste, j'essaie de l'être, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de femmes réalisatrices. Si on remonte 20 ans ou 30 ans en arrière, ça n'a plus rien à voir. Et je pense que dans 20 ans, ça n'aura plus rien à voir avec aujourd'hui non plus. Quoi.
Mais on vient de loin.
Et
oui,
on vient de très
loin.
C'est ce
que j'allais dire. Ouais. Il y en a de plus en plus, mais effectivement, on vient de loin. Hein. Donc, et c'est toujours important. C'est vrai qu'on pose la question, mais oui. Enfin, qu'est-ce que ça change un regard de femme ? En fait, ça change beaucoup. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a toujours sur Arte cette petite série. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Une petite série documentaire. C'est 9 minutes chaque documentaire. Il y en a 7, je pense, qui s'appelle Culbut. Culbute nos sexualités sous influence. Et c'est comment les films, les séries, les jeux vidéo, etc., les contes de fées, sans qu'on s'en rende compte, influencent notre sexualité, mais pas que. Et depuis l'enfance, comment tout ça construit inconsciemment nos désirs, définissent les normes, inspirent nos pratiques au quotidien. Et c'est assez éclairant. Il y en a sur le consentement, sur le viol aussi. Et moi, je me souviens notamment de cette petite capsule sur le viol où je me suis rendu compte à quel point lorsque un viol est filmé et lorsqu'il s'agit d'un viol de femme, il y a très souvent une forme d'érotisation du viol, de désir. Et quand par contre c'est un homme qui est violé, là c'est l'horreur L'horreur suprême. Je vois que tu fronces les sourcils. Alors évidemment, c'est pas tous les cas.
J'essaie de resituer. Alors moi, dans les films qui me viennent à l'esprit comme ça sur des viols, c'est pas des viols érotisés quoi. C'est vraiment, je pense au grand embouteillage de Comencini où c'est absolument épouvantable. Je pense à un film de femme justement dans les années 80 dont j'ai plus le titre en tête de Yannick Belon où c'est assez effrayant aussi. Alors c'est peut-être parce que justement ces séquences étaient extrêmement fortes et insupportables que je m'en souviens plus que d'autres, mais oui, moi, mes souvenirs de cinéma, c'est plutôt ça. Quoi.
Réflexion en tout cas, mais insoutenable, oui, c'est ça. Voilà, donc petite série qu'on peut revoir sur Arte Replay. Ça fait toujours pas de mal. Et bien, comme chaque semaine à la fin de l'émission, on parlera aussi de l'agenda du cinéma où il sera bien sûr question d'actualité encore. Mais sans plus attendre, on passe au film.
Rune Kirney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire?
Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose?
Vous avez des ennemis?
Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva.
Vous pouvez nous en dire plus? Proglio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement.
Vous avez des preuves?
Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups.
Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié.
Vos questions à la direction, vous gérez bien auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui?
Faites attention.
Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier.
Fais gaffe, c'est toi toujours dans la cour des grands.
Madame Kirney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé.
Mais j'étais violée.
Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé?
Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas.
Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite?
C'est le même que votre scotch. Je n'y crois pas à la version de votre femme.
Arrêtez de dire mon scotch.
Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau.
T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant la longue.
Vous êtes toute seule.
Ils se sont jamais faire, surtout par une femme.
Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement.
Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté.
Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect.
Il est dangereux ce type.
Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes.
Vous trouvez pas que c'est assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité.
Je n'ai pas menti.
La syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, que vous avez entendu, Grégory Gadebois, François-Xavier de Maison, Marina Foïs aussi. Alors Jean-Paul Salomé qui aime filmer les femmes engagées. Engagé militant.
Oui, oui, en même temps, moi je ne l'attendais pas là. Jean-Paul Salomé, c'est quand même le réalisateur de Belphégor, de La Daronne, bon, qui ne sont pas forcément des mauvais films, mais qui ne sont pas des... qui ne représente pas le côté dossier, puisque là, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, il s'agit de ce qu'on appelait les films dossiers, qui étaient assez fréquents dans les années 70, avec des réalisateurs comme Yves Boisset et d'autres. Ouais. Et donc ici, on est sur un... Alors, j'ose même pas dire un fait divers, je dirais plutôt une affaire politico-financière qui a été tournée en fait divers, qui est relativement récente, mais dont on n'avait pas parlé tant que ça à l'époque, au début des années 2010. Donc il s'agit de cette histoire qui avait la société Areva
qui ne s'appelait pas encore en comme telle.
Voilà, qui s'appelait Areva, au moment où Anne Lauvergeon, qui était la directrice, et que Sarkozy avait dans le nez, et quittait la société. Et donc, le film commence avec les relations qui existaient entre donc Anne Lauvergeon, la responsable de Areva, et la responsable syndicale CFDT, qui s'appelle Maureen Kearney. Et qui, ma foi, chacun dans son rôle de patron et de syndicaliste, entretenait des relations correctes et ça se passait plutôt bien. Jusqu'au moment où Anne Lauvergeon partit, une taupe d'EDF remet à Maureen Kearney des documents ultra confidentiels qui lui font découvrir qu'il y a des tractations secrètes avec la Chine, que Areva risque d'être démantelée au profit d'EDF et que à cette occasion, on va brader un savoir-faire français technologique sur le nucléaire la Chine. Et donc elle va évidemment se transformer en lanceuse d'alerte et recevoir un certain nombre de menaces qui vont aller très très loin, c'est-à-dire jusqu'à une agression chez elle où on lui grave un A sur le ventre, on la viole, on l'attache une nuit entière, voilà. Et ce qui est phénoménal, c'est que l'adjudant chargé de l'enquête de gendarmerie va finir, alors on ne sait pas s'il est convaincu ou s'il a des ordres, mais en tout cas va finir par aboutir au fait qu'elle n'a jamais été agressée et qu'elle s'est auto-agressée elle-même, voilà, pour faire parler d'elle et voilà. Et donc c'est cette histoire absolument effrayante que la syndicaliste nous raconte. Alors on peut le dire puisque on peut raconter un peu cette histoire puisque ça arrive très vite dans le scénario et que c'est connu. Hein, ça fait partie de l'histoire. Maintenant, on n'a plus trop l'habitude en France, malheureusement, de ce type de film de dénonciation récent en plus, parce qu'on on remonte beaucoup aux années 80-90, mais
c'est très américain, ça.
Voilà, c'est très américain. Moi, ça me fait penser à des films comme Erin Brockovich ou plus proche de nous, Darkwater. Voilà, les Américains, les Américains savent faire ça très très bien, et je trouve que c'est très très intéressant qu'on puisse remettre sur le tapis des histoires telle que celle-ci, alors que tous les personnages sont encore présents sur la scène politique. Hein. On voit Arnaud de Montebourg dans le film, Sarkozy dont on parle encore beaucoup, Hollande. On est vraiment là dans une actualité alors, qui est plus brûlante, mais qui est quand même très, 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 très présente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette histoire? On l'a jamais su et probablement qu'on le saura jamais. Il semblerait que ce soit pas, et heureusement, une commande de l'État, cette agression, mais plus probablement un acte personnel de ce qu'on appelle dans ce genre de dossier des intermédiaires. Des intermédiaires qui sont des gens de l'ombre et qui prennent au passage. Alors, il y a un nom qui a été avancé, donc moi je suis pas policier, hein, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un nom qu'on peut citer parce que il a été déjà cité plusieurs fois, qui est Alexandre Djoury, donc qu'on connaît parce qu'il a donc Alexandre Djoury, c'est un ancien petit caïd de banlieue. Qui est devenu un homme d'affaires riche et qui a trempé dans pas mal de trucs, en particulier dans le dossier libyen avec Sarkozy. Donc, alors on pense que, mais on n'a aucune preuve et on n'en aura probablement jamais. Absolument parce que jamais.
Quoi. Ouais, la cour d'appel, justement, j'ai fait quelques petites recherches avant. La cour d'appel a suspendu, en fait. Elle est reconnue non coupable de dénonciation mensongère, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est reconnue victime de l'agression.
Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de cote mal taillée. On lui fiche la paix parce que elle a continué à remuer tout ça un petit peu après. On lui fiche la paix, mais en même temps, on ne lui donne pas complètement raison. Quoi. C'est... Et alors, ce qui est intéressant, alors c'est Isabelle Huppert qui joue ce rôle. Et Anne Lauvergeon, qu'on voit moins dans le film, mais qui est quand même un personnage important, et est interprétée par Marina Foïs. Et ce qui est intéressant, et ce qui est bien montré, je crois, c'est comment tout le monde va la lâcher, quoi. Alors, on ne va pas forcément la lâcher en la dénonçant, en la chargeant, mais Anne Lauvergeon, avec qui elle entretenait des relations qui n'étaient pas des relations d'amitié, évidemment, mais des relations de très bonne intelligence plus que ça, même. C'est-à-dire, c'était vraiment très bonne intelligence entre une leader syndicaliste et une représentante du patronat. Va dire oui, on se connaissait évidemment, on travaillait dans la même entreprise, elle a été un peu lâchée, y compris à un moment même par ses camarades de la CFDT. Voilà, donc un film, je pense, un film utile, un film intéressant, puisqu'il se regarde un peu comme un polar. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de marier le cinéma à ce type d'affaires. Voilà, il y a peu de films actuellement, je pense, de ce type en France. Voilà.
La syndicaliste de Jean-Paul Salomé, donc, qui est à voir à Aubenas, au Teil, à Privas et à Cruas cette semaine. On passe à un autre film d'un cinéaste qui aime filmer les femmes.
Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle.
Inspecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand.
Oui.
Monsieur Montferrand est mort.
Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
Monsieur Montferrand m'a sauté dessus.
Enfin, mademoiselle.
C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison.
Pas forcément. Légitime défense.
Alors c'est moi.
Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
Moi aussi. Enfin, des femmes.
Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sans-gêne.
Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Ta vie me semble si différente à présent.
Décidément, ton crime fait des miracles.
Pour Mademoiselle Verdier.
Encore ?
Pendant 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su...
Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe. Cette robe de chambre.
Viens, je vous en prie.
Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent.
Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant.
Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal.
Mon crime de François Ozon. Ouais, la bande-annonce, elle est assez réjouissante. Hein. Mon crime, donc, avec Nadia Tereskiewicz, Rebecca Marder, bien sûr, Isabelle Huppert, qu'on a entendu un petit peu, et puis d'autres qui sont difficilement décelables à l'oreille. Il y en a un qui est difficilement décelable à l'oreille.
Oui, alors, je ne sais pas, je n'ai pas écouté.
Avec un accent marseillais.
Ah oui, il y a Danny Boone.
Eh oui.
Le très improbable Danny Boone, lui qui est un ch'ti.
C'est ça.
Oui, oui.
Alors, ouais, bande-annonce. Mais justement, là, on parlait d'actualité, donc on a parlé syndicalisme juste avant. Est-ce qu'on peut parler d'actualité en adoptant une pièce de théâtre des années 30 ?
Ah oui, tout à fait. Je vais y venir rapidement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est un film qui est bien dans le présent, même si ça se passe en 1930. Donc, oui, effectivement, on est dans les années 30 à Paris. Et là, Madeleine Verdier, une jeune actrice jolie, sans le sou, et semble-t-il sans grand talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur qui aurait abusé d'elle.
Je ne vois pas. Pardon. Hein? Excuse-moi.
Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle va être acquittée pour légitime défense. Et c'est là que commence pour ces deux jeunes femmes une nouvelle vie faite de gloire et de succès, jusqu'à ce qu'un personnage intervienne qui va leur mettre des bâtons dans les roues et va menacer cette réussite. Alors, c'est un film plein d'énergie, avec des acteurs brillants, servis par des répliques pleines d'humour et visiblement des acteurs qui visiblement se régalent dans des rôles qui leur permettent d'exprimer tout leur talent. Je pense d'abord aux deux actrices qui tiennent les deux rôles principaux, mais je pense aussi à tous les autres, à Lucchini, qui est égal à lui-même, il est très bon, il n'en fait pas trop, il est excellent, à Isabelle Huppert, à Dussolier, à Las Palès, à Danny Boone, qui, comme on vient de le dire, croque un personnage à la Pagnole, aussi réjouissant qu'inattendu pour ce garçon qui est originaire du nord de la France. C'est un film qui ne se veut pas réaliste au pied de la lettre. Pour revenir à ce que tu disais, les situations ne sont évidemment pas vraisemblables. Les décors, au moins les extérieurs, ne prétendent pas à l'exactitude. En fait, c'est un film qui renoue avec un cinéma qui nous manque, enfin qui à moi me manque en tout cas. Le cinéma, effectivement, des années 30, celui de Sacha Guitry, de Marcel Pagnol en France, peut-être aussi un peu de René Clair, et aux États-Unis, le cinéma de Lubitsch ou de Howard Hawks. Stylistiquement, c'est un film qui ne nous permet à aucun moment d'oublier qu'on est à la fois au cinéma et au théâtre. On s'en aperçoit tout de suite. Je ne savais pas au début que le film était tiré d'une pièce de théâtre, mais ça paraît évident. On a de très nombreux coups d'œil au cinéma des années 30, et dans le film même, des scènes de théâtre, puisqu'au fond, c'est l'histoire de...
d'une actrice de théâtre. Il y a cet aspect ludique, donc, dans le film, tous ces clins d'œil au spectateur qui est particulièrement agréable. C'est un cinéma qui veut distraire, donc, mais qui ne se contente pas de ça. En effet, c'est un film qui, sous ses apparences légères, et qui, même si l'action se situe dans les années 30, et c'est ce que tu disais, parvient à dire beaucoup de choses sur notre époque, sur la situation des femmes, par exemple, victimes encore aujourd'hui des injustices, de la violence des hommes, qu'on connaît. Hein. Un film qui nous rappelle indirectement qu'il a fallu attendre 1948, si je ne m'abuse, pour que les femmes obtiennent le droit de vote. D'ailleurs, il y a une allusion à ça dans le film.
1944, mais elles ont voté pour la première fois en 45.
D'accord, c'est 44. D'accord, c'est beaucoup trop tard de toute façon. Un film qui montre le pouvoir obsessionnel de l'argent. À ce titre, la séquence dans le bureau du PDG de l'entreprise Bonnard est un bijou. Dans cette scène, Dussolier campe un patron prêt à toutes les compromissions pour attirer les capitaux, quelle que soit leur provenance vers son entreprise. Je parlais de clin d'œil au cinéma, il y a là la façon, le décor du bureau n'est pas sans rappeler, bien sûr, le décor du bureau du patron dans le film de Chaplin, Les Temps modernes, avec cette grande fenêtre qui permet au patron de surveiller comme une espèce de dieu qui domine tout ça. Voilà, donc c'est un film qui égratigne habilement la justice aussi, avec par exemple cette réplique que je ne saurais reproduire intégralement, et où le procureur interprété par Lucchini explique « La justice c'est une chose, rendre la justice ce n'est pas la même chose ». Il y a donc, oui, ce côté Rastignac de ces gens qui sont prêts à tout pour réussir. Tout est faux dans ce film et tout est vrai en même temps.
Là, tous les éléments que tu nous donnes, je me dis, ça me dit quelque chose. Ouais. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part.
Oui, et c'est ça, moi, je trouve, la magie du cinéma et du théâtre. À la fois, nous montrer, je répète, les clins d'œil sont incessants au cinéma, au théâtre. J'ai cité le bureau du patron. À un moment, il y a une grande affiche d'un film américain, etc. Les décors qui sont par moments, comme je l'ai dit, vraiment, il y a un côté carton-pâte, on voit qu'on est au cinéma. Voilà. Et c'est très jouissif d'un point de vue cinéphile. J'ai parlé de la dimension féministe du film, mais dans ce domaine, il faut ajouter que les hommes en prennent pour leur grade. À l'exception du personnage interprété par Danny Boud, qui est honnête et très sympathique, ils sont tous misogynes à souhait. Et pour la plupart, c'est quand même des crétins corrompus. Voilà, c'est un film jubilatoire que je pense qu'il faut aller voir pour passer un très bon moment de cinéma.
Super, bon, en tout cas, moi, tu m'as donné bien envie. Didier, qui l'a vu aussi.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que René vient de dire. Alors, effectivement, c'est du cinéma, mais c'est du théâtre, puisque la toute première image est celle d'un rideau qui s'ouvre. Donc voilà, là, on est bien dans la situation. Moi, j'ai beaucoup aimé, je suis tout à fait en accord avec ce que tu as dit. Alors, j'ajouterais peut-être que c'est un film, et j'aime beaucoup ça, c'est un film délicieusement immoral. Voilà, et que c'est très, très fin, parce que si effectivement l'action telle qu'elle est ici était située chez nous là, en 2023, le film aurait un autre sens. Parce que ces femmes qui sont dans la société de 1935, donc une société très, très oppressive pour elles, vont lutter un peu avec les mêmes armes. Elles vont lutter avec le mensonge, avec la duplicité, avec le meurtre,
etc.
Elles tournent la table, voilà. Alors, je trouve que c'est très, très intelligent de la part de Ozon d'avoir situé le film, effectivement, à cette époque. Alors, c'est complètement jouissif. C'est le format Ozon. 1h40, c'est absolument parfait. Et je terminerai en disant que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que François Ozon est un des réalisateurs très importants aujourd'hui en France, un des meilleurs, qui produit en plus pratiquement un film par an, mais que quand même... pour moi, en tout cas, le registre où il reste le meilleur, c'est celui-ci. C'est la comédie. Mmh. Bon, ça m'a ramené, alors, comme tu le disais, justement, à Lou Beach, à Cukor, à Audouard Hawks, tous ces grands auteurs de comédie des années 40-50. Mais ça m'a ramené aussi à plusieurs de ses précédents films, en particulier à Potiche et à Huit Femmes, où on retrouve la même verve, le même souci du décor, qui sont, tu l'as justement dit, à la fois juste et à la fois faux. Et tout ça a fait un film jubilatoire. Et il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui sur les écrans pour qu'on s'en prive.
Tu as raison. Et en plus, effectivement, il y a cette veine de ce genre de film. Il en a fait plusieurs. Et en même temps, c'est quand même quelqu'un qui essaie de renouveler son écriture. On parlait tout à l'heure du film dont le titre m'échappe. Franz, je crois que
alors
c'est.
Il y a Franz dans le titre, mais je n'ai plus le titre exact. Qui est un film en noir et blanc.
Qui n'a rien à voir comme esthétique.
Sur l'après-guerre, oui.
Rien à voir.
Et sur la thématique non plus, d'ailleurs. Ouais.
Donc, Mon crime de François Ozon, eh ben, allons le voir cette semaine et la semaine prochaine au Ciné 7 de Ruyons, au Navire d'Aubena, au Vivarais de Privas. Troisième film à l'affiche.
How do you feel, generally?
I do feel a bit... numb, I suppose.
And you do have people you can talk to, friends.
Why don't you pop into the office for a quick drink?
Stop.
Why? Who's this hurting?
Well, your wife, for one.
Morning, all. Stephen here will be replacing Trevor.
Hello.
This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else.
It really was beautiful.
It still is.
Where are you from? Does it happen a lot?
Well, yeah. It's everywhere, isn't it?
No one's going to give you the life you want.
But you've got a problem, you know that?
You have to go out and get it.
Empire of Light de Sam Mendes avec Olivia Colman, Michael Ward, Tom Brooke, Colin Firth. Didier, tu l'as vu, alors après Babylon et The Fablemans, que vaut la déclaration d'amour au cinéma de Sam Mendes ?
J'en ai encore des étoiles dans les yeux. Et je trouve qu'on a effectivement une convergence de trois films. Alors, tous sur le cinéma, mais tous sur des registres différents. La naissance d'un cinéaste, la naissance du cinéma. Et là, ce qui arrive très peu quand même, la salle de cinéma. Alors si on avait eu... Cinéma Paradiso, voilà, qui est lointain maintenant, mais là on est dans complètement autre chose. Donc d'abord on est en Angleterre, c'est Sam Mendes qui réalise le film, alors qui, comme je disais tout à l'heure, Jean-Paul Salomé pour La Syndicaliste, Sam Mendes on le voyait pas là vraiment, hein, c'est quand même le réalisateur de deux des grands James Bond parmi les derniers, et là c'est plutôt un film relativement intimiste sur... Oui.
Non, mais je rebondis sur ces questions peut-être un petit peu de femmes. Il y avait Les Noces Rebelles en 2008 avec
oui, mais c'était quand même Kate Winslet, un petit peu différent, quoi. Là on est en Angleterre dans les années 80, dans un cinéma qui est un peu sur le déclin, mais qui fait partie de ces très grandes salles de cinéma qu'on connaissait, luxueuses, avec des velours, des lustres, des ors, des dorures, voilà. Et d'ailleurs c'est pas par hasard si à l'époque l'époque, les cinémas s'appelaient Rex, Alhambra, Luxor, etc. Donc on est très très loin des villes incubes là, qu'on nous vend aujourd'hui. Et ce cinéma sur le déclin, qui avait 4 salles, qui en a plus que 2, à l'intérieur vit une espèce de petite famille, ce sont les employés. Donc il y a le directeur qui est un type pas très fréquentable, il y a la gérante qui est un peu fragile, qui est même fragile psychologiquement, il y a les ouvreurs, les ouvreuses, le projectionniste qui est un personnage absolument incroyable, et là il y a un hommage au cinéma, mais aussi un hommage à la cabine de projection et aux projectionnistes. Les vrais, ceux de l'époque qui travaillaient avec des charbons, qui en double poste, avec cette espèce de magie où on se dit ça va jamais marcher, en fait ça fonctionne, où les bobines sont projetées de 20 minutes en 20 minutes, s'enchaînent les unes aux autres. On a tout ça absolument, on a des yeux absolument émerveillés en voyant ça, et arrive dans cette petite famille qui s'est constituée autour de ce cinéma, arrive un nouveau personnage qui est un noir. Et là, ça va faire bouger beaucoup de choses. Alors, pour aller très vite, parce que le temps passe, il y a tout cet hommage au cinéma qui est absolument merveilleux dans des images, des lumières relativement dorées. Et puis, on a aussi l'extérieur, là, dans des lumières beaucoup plus froides. Et on a aussi, sur l'extérieur, une vision de l'Angleterre thatchérienne des années 80, avec les émeutes racistes. Film absolument complet. Et on en sort, enfin moi j'en suis sorti vraiment, je le disais tout à l'heure, avec des étoiles dans les yeux, je retournerai le voir. On a 3 films ici sur le cinéma.
Comment est-ce qu'il articule cette dimension sociale à la vie de ce cinéma ?
Eh bien, à travers ce personnage, Stephen, qui est noir. D'accord. Qui est noir et dont certains spectateurs ne vont pas s'accommoder, et qui, dès qu'il sort dans la rue, puisqu'il y a une histoire évidemment autour, on le suit et on voit comment il peut être agressé, comment c'est compliqué pour un noir à cette époque-là de se déplacer dans Londres et dans les villes anglaises.
Empire of Light de Sam Mendes, qui est à voir à Aubenas au Thaï cette semaine, puis à Privas Cruas au Quinconce de Val, c'est toujours à Aubenas la semaine prochaine. Juste un mot. Peut-être tu voulais dire un mot sur deux autres films, là, Les Gardiennes de la Planète.
Voilà, et El Agua. Donc, Les Gardiennes de la Planète, je vais être très très rapide, ouais. C'est un documentaire sur les baleines, comment ces mammifères marins se développent en société, comment elles sont là depuis bien avant nous. Donc, je dirais presque qu'il n'y a rien de nouveau sous la mer, mais en même temps, c'est absolument superbe à voir, très intéressant, et ça remet en cause toute cette pêche absolument industrielle et effrayante sur ces animaux qui nous ont jamais rien fait. Et El Agua, premier film espagnol de Elena López Hierra, alors qui est un film intéressant, qui développe un véritable climat, mais qui, à mon avis, n'est pas tout à fait abouti, puisqu'il y a plusieurs thèmes qui se développent. Le premier, c'est la superstition, à travers la croyance que le fleuve, avant chaque crue, va prendre possession d'une femme et l'emporter avec lui. Et donc, et pour illustrer ça, il y a une famille centrale, une famille matriarcale, où il y a la grand-mère qui est considérée un peu comme une sorcière, la mère qui tient le bar du coin, qui a une vie libre et qui n'est pas très bien vue, et la fille qui se demande si c'est pas elle qui va être emportée. Voilà. Et en même temps, autour de tout ça, il y a l'été qui est interminable, les jeunes qui s'ennuient, les bruits qui courent. Alors tout ça fait effectivement créer un climat, une atmosphère, mais ne va jamais vraiment au bout complètement des choses. Ça se marie, mais on laisse un peu les choses aller toutes seules, et la fin du film, qui est la crue, arrive sans qu'il se passe vraiment énormément de choses. Donc, mais c'est quand même très intéressant, parce que ça crée un climat. C'est relativement bien mis en scène, et la jeune comédienne, qui n'est pas une professionnelle, qui tient le film sur ses épaules, est absolument remarquable.
Ouais, à expérimenter, à voir El Agua de Elena López Riera à Privas. Tu parlais de superstition, je voulais terminer le cinémascope avec à l'agenda notamment un focus un peu sur l'actualité, puisque avant-hier et hier se sont tenues à Paris les premières assises nationales contre les dérives sectaires. Je rappelle au passage que la MIVILUD, donc la mission interministérielle de lutte contre les mouvements sectaires, a reçu 86% de signalements en plus en 5 ans, selon son président, et que ça s'est accéléré depuis le Covid, et que les réseaux sociaux, évidemment avec le développement notamment des micro-influenceurs, a aggravé encore la situation. Alors pourquoi je parle de cela ? Parce que dimanche, à Ruyons, à 17h30, sera projeté à nouveau le film « Les Éblouis », très beau film, Les Éblouis. C'est un ciné-débat autour des dérives sectaires, ou plutôt, comment on fait quand une personne se retrouve dans ce cas, comment on peut l'aider. C'est organisé par le foyer Rue Homme-Soie, et c'est Frances Harper qui viendra témoigner et animer le débat. Frances Harper, qui est une autrice ici ardéchoise et qui elle-même est passée dans les années 70, dans les années 80 par la secte des Mormons et qui a écrit un livre dont je vais retrouver le titre, qui est Le baiser de Judas, je pense, là-dessus, en 2017, et qui viendra justement parler de son expérience et de comment on fait pour s'en sortir et comment on peut aider les gens à s'en sortir. Et je pense que ça peut être très très intéressant. Donc c'est dimanche à Ruyons à 17h30 avec ce très beau film très subtil, Les Éblouis, voilà, avec cette jeune fille qui essaie de s'émanciper lorsque sa famille entre de plein pied dans une des sectes. Et puis on peut faire aussi un petit parallèle, même si on ne veut pas tout ramener à ça, à ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier avec la famille missionnaire. Voilà, et puis il y a aussi le festival Au cinéma pour les droits humains dont on a parlé toujours cette semaine. Vous pouvez le retrouver à Privas, à Barjac et au cinéma Vivance. Et puis c'est aussi la fête nationale du court-métrage. Il y a plein de courts-métrages à retrouver, on en parlera la semaine prochaine. Ça y est, on est déjà en retard. Merci beaucoup Sylvain de ta patience, merci à vous messieurs pour avoir parlé de cinéma, merci au cinéma, merci à vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour Cinémascope. Bonne semaine et bon cinéma. Voilà.